Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le patriarche copte d'Alexandrie, aux côtés du pape, c'est l'image de ce lundi matin au Vatican. François a apporté son soutien aux chrétiens d'Égypte au cours de la messe célébrée à Sainte-Marthe avec Mgr Isaac Sidrac. Le pape qui a reçu également le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, l'occasion de parler de l'instabilité du continent, en particulier de la Centrafrique voisine. Nous redécouvrirons également le sens des symboles de l'Avent et puis nous reviendrons sur la récente visite du cardinal Cor en Roumanie. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Ambiance écuménique ce lundi matin dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican. Le pape a en effet célébré la messe en compagnie de Mgr Ibrahim Isaac Sidrac, le patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques, de passage à Rome pour manifester publiquement sa communion ecclésiastique. Elle lui avait été accordée un an plus tôt par Benoît XVI, le patriarche qui a concélébré avec le successeur de Pierre, Jean-Baptiste Cocagne.
Dans son homélie, le pape a plaidé une nouvelle fois pour que les divisions s'apaisent au Moyen-Orient. Aux côtés du patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques, François a renouvelé sa proximité avec les chrétiens de la région qui vivent dans l'incertitude des lendemains. Prions avec confiance pour que la paix en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient puisse toujours se relever des coups d'arrêt récurrents et parfois dramatiques qui lui sont portés, a souligné le pape, invitant à dépasser les intérêts personnels, parfois obscurs, plaidant pour que la liberté religieuse soit garantie pour tous et pour que les chrétiens puissent vivre sereinement là où ils sont nés. Le pape a aussi rappelé la fuite de la Sainte Famille, qui fut généreusement accueillie en terre égyptienne, et a demandé au Seigneur qu'il veille particulièrement sur les Égyptiens pour qu'ils cherchent dignité et sécurité. Le patriarche copte a pour sa part exprimé sa joie de concélébrer avec le pape et souligné que l'Église d'Égypte, en cette période délicate, avait besoin du soutien paternel du successeur de Pierre. Que la lumière du Saint Noël puisse être l'étoile qui indique le chemin de l'amour, de l'unité, de la réconciliation et de la paix, a dit le patriarche Sidrac en remerciant le Saint-Père, des dons dont ma terre, l'Égypte, a tant besoin. En demandant au pape sa bénédiction, le patriarche copte catholique l'a invité à se rendre en Égypte.
La République arabe d'Égypte, qui est un État souverain, un et indivisible, une république démocratique fondée sur la citoyenneté et sur l'État de droit, c'est ainsi que l'Égypte est définie dans le projet de nouvelle constitution déposé il y a quelques jours par les 50 membres de l'Assemblée constitutionnelle, un projet qui doit être soumis à un référendum populaire d'ici la fin du mois de janvier. Si l'article 2 précise que la loi islamique est reconnue comme source principale de la législation, l'article 3 établit que les chrétiens ou les juifs d'Égypte pourront choisir leur chef spirituel. Le texte qui précise également plus loin que la liberté de pratique religieuse et de construction de lieux de culte pour les membres des religions abrahamiques est garantie et réglementée par la loi. La nouvelle constitution semble donc donner des signes encourageants, même si de très nombreux Égyptiens restent sur leur garde en raison du climat sécuritaire très volatile dans le pays et l'emprisonnement récent de nombreux militants des droits de l'homme. Le pape a reçu ce lundi matin le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Un entretien qui a permis, selon un communiqué du Saint-Siège, d'évoquer l'importante contribution de l'Église à la société congolaise, en particulier en matière d'assistance et d'éducation, mais également de se féliciter des bonnes relations entre le Congo et le Saint-Siège. Le pape et le président congolais qui ont aussi évoqué la situation en Afrique centrale, ses aspects humanitaires, le problème des réfugiés et de l'aide à leur apporter, ainsi que la sécurité régionale, notamment là où s'aggravent les tensions à caractère fondamentaliste. Et de l'autre côté de la frontière, justement, République centrafricaine, l'opération Sangaris de l'armée française se poursuit. Les militaires sont chargés de rétablir la sécurité dans un pays au bord du chaos où les massacres ont fait des centaines de morts ces derniers jours, en particulier à Bangui, la capitale. L'un des principaux objectifs des soldats français est de désarmer les milices qui provoquent la terreur dans plusieurs villes et villages du pays. Peut-on craindre un repli des éléments de l'ex-rébellion Séléka dans les villes et villages de province et de nouvelles exactions? Hélène Détombe a posé la question à Mgr Dieudonné Nzapalenga, l'archevêque de Bangui.
Certains nous l'ont dit déjà que beaucoup avaient quitté la ville pour se retrouver dans certaines régions. C'est le cas, par exemple, à Bozoum, où nous avons eu des informations comme quoi le nombre des hommes ont tenu à tripler, pour ne pas dire quadrupler, et ça sème le désordre. Et les gens aussi là-bas ont fui pour se retrouver autour de la paroisse de Bozoum. Ça montre que, bon, certains ont quitté la capitale pour aller en province. Mais je pense que la solution, ce n'est pas se retrouver dans le petit coin pour narguer ou harceler. La solution, c'est vraiment de collaborer, hein, de se mettre ensemble. Chacun a un espace ou bien un avenir dans ce pays et chacun peut apporter sa contribution à l'édification de ce pays. Et il est temps de déposer les armes. Et nous lançons cet appel vraiment pour que les uns autres désarment d'abord leur cœur et leurs mains, leur mentalité, pour qu'on en puisse rebâtir ce pays.
Le pape confirme l'intérêt qu'il porte aux questions liées aux abus sexuels sur mineurs. Après avoir annoncé la semaine dernière par la bouche du cardinal archevêque de Boston la création d'une commission pour la protection de l'enfance, il a envoyé un télégramme via le secrétaire d'État, Mgr Parolin, à l'association italienne Mater pour saluer l'inauguration d'un centre d'aide aux victimes d'abus. Le pape qui envoie sa bénédiction apostolique à tous les membres de cette association dirigée par Don Fortunato Di Noto, un prêtre très impliqué dans la lutte contre la pédophilie en Italie. Association de référence dans la péninsule, Mater a donc ouvert un centre dans la ville d'Avola, en Sicile, ce dimanche 8 décembre. À l'approche de Noël, nous vous proposons ces prochaines semaines de redécouvrir ces symboles. D'où vient la couronne de l'Avent? Pourquoi mettons-nous un sapin dans la maison? Pourquoi surtout fêtons-nous Noël le 25 décembre? Ces questions, nous les avons posées au père Jacques Neuviartz, assomptionniste et conseiller éditorial de la revue Prions en Église. Ce lundi, en cette deuxième semaine de l'Avent, retour sur ce temps de l'attente de la naissance du Christ et des symboles qui l'entourent.
On est entré dans la période de préparation à Noël, c'est la grande période de l'Avent, qui s'écrit bien A-V-E-N-T, c'est-à-dire c'est un avènement, c'est une venue, et tout le temps de l'Avent, ces quatre semaines, sont une croissance en nous de l'attente de la venue du Christ. Il est déjà venu, il y a 2000 ans, mais la question c'est qu'il vienne au cœur de notre vie, et c'est ce que vivent les chrétiens dans la foi durant ce temps. Jadis, on l'appelait parfois le petit carême, c'est-à-dire on sait bien que pendant ce temps, il y a une sorte d'exercice intérieur. Jadis, dans les cultures germaniques, également chez les Romains, on avait besoin d'exorciser le temps de la plus grande obscurité dans l'année. Un peu comme si on avait peur que l'hiver puisse toujours durer, qu'on reste dans la nuit. Et il y a toujours eu des fêtes de la lumière qui ont parsemé ce temps de la plus grande obscurité de l'année, qui mène au solstice d'hiver, le 21 décembre. C'est à la fois le cœur de l'hiver, mais secrètement, c'est aussi à partir de ce jour-là que les jours commencent à rallonger.
Et le symbole de cet événement, c'est bien sûr la couronne de l'Avent.
La tradition, la coutume de la couronne de l'Avent n'est pas répandue partout. Hein. Elle est très vivace dans les pays du Nord et les pays germaniques. On avait la tradition, là, dans les pays germaniques, d'une couronne de l'accueil que l'on plaçait sur la porte de la maison. La couronne est verte. Hein. La verdure au cœur de l'hiver est le signe de la persistance de la vie. Et donc la couronne est un rappel de la vie qui ne meurt pas au cœur de l'hiver. Elle est de forme ronde, un peu comme le soleil, un peu pour dire une plénitude et l'éternité de Dieu. Mais on la met aussi dans la maison et on y place quatre bougies dont les couleurs ne sont pas identiques selon les lieux. La couleur rouge prévaut chez nous, c'est la couleur du feu, de la vie. Dans d'autres pays, elle est éventuellement blanche, c'est la pureté, c'est la clarté de Dieu. En tout cas, donc les quatre bougies vont être allumées, une chaque dimanche. Donc la première va durer tout le temps de l'Avent, la seconde sera allumée au second dimanche, la troisième, c'est pour montrer comment on est en train de grandir dans l'attente du Christ et comment cette attente est en train d'entrer de plus en plus dans la lumière du Christ.
Et on voit beaucoup de couronnes en houx.
Quand elle est faite avec du houx, il y a ces petites boules rouges qui rappellent autre chose, c'est que la couronne aussi est une couronne et qu'elle peut aussi symboliser la couronne d'épines du Christ. Et et les petites boules rouges qu'il y a dans le houx rappellent les gouttes de sang et donc montrent ce que l'on est en train de fêter, c'est l'incarnation d'un Dieu qui s'est entièrement donné, qui a donné sa vie.
Et de quand date le calendrier de l'Avent ?
Le calendrier de l'Avent qui est une habitude plus récente en fait. L'idée est toujours la même, c'est de marquer le temps de l'attente. C'était surtout pour les enfants. Il fallait en quelque sorte nourrir cette attente. C'est une tradition, là aussi, d'origine germanique. Elle est connue principalement depuis la moitié du 19e siècle. C'était plutôt dans les familles protestantes qui priaient, qui chantaient, qui lisaient la Bible à la maison. Et les catholiques allaient chaque jour à la messe. Et on pense d'ailleurs qu'en 1901 est apparu le premier vrai calendrier de l'Avent. Et si on en croit la tradition, il s'est présenté comme une pendule, avec une aiguille que l'on déplaçait chaque jour. Quand les enfants ouvraient le calendrier de l'Avent, ouvraient chaque petite alvéole, donc au fil des jours, ils trouvaient une parole de Dieu, une parole de l'Évangile, ou bien l'idée d'un effort à faire dans leur vie, parfois une friandise. Je crois qu'aujourd'hui, dans le commerce, on fait circuler beaucoup de calendriers de l'Avent qui n'ont que le nom de calendrier de l'Avent. Véritablement, la tradition, c'était de préparer son cœur. On voyait un petit personnage biblique, on entendait une parole. Voilà le calendrier de l'Avent. Donc, pour marquer le temps de l'attente.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. Ce mardi, la Confédération des Caritas lancera sa première campagne mondiale contre la faim avec un message attendu du pape, un message vidéo enregistré, mais aussi une vague de prières internationales. La campagne qui a pour thème « Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous » et qui mobilise les organisations Caritas pour mettre un terme à la faim d'ici 2025. Dans une lettre adressée aux évêques de la Caritas, le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, président de la Caritas Internationalis, encourage les personnes et les nations à être plus sensibles à la question de la faim, à réduire le gaspillage, à maximiser l'utilisation des terres pour la production alimentaire et à soutenir les femmes agricultrices. Une initiative sur laquelle nous reviendrons évidemment largement dans nos prochaines éditions. Pour terminer ce magazine, direction la Roumanie, d'où le cardinal Courtecor est de retour d'une visite de plusieurs jours. Le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens a rencontré en particulier le patriarche Daniel, chef de l'église orthodoxe roumaine, mais aussi les communautés gréco-catholiques à Blaj ou à Cluj-Napoca. Le dialogue œcuménique avec les orthodoxes roumains n'est pas simple, notamment depuis la décision en 2008 de ne plus prier avec les catholiques. Mais au-delà des incompréhensions, les signes d'espérance sont là malgré tout. C'est ce que nous explique le père assomptionniste Michel Kubler. Il dirige le centre Saint-Pierre-Saint-André à Bucarest, un espace dévoué au dialogue entre chrétiens.
Il y a des difficultés qui sont le résultat des décennies passées, et particulièrement du fait de la période communiste. La plus grosse difficulté à cet égard étant la situation de l'église gréco-catholique de Roumanie, donc une église catholique de rite byzantin, qui avait été supprimée de force en 1948 par le régime communiste et intégrée de force à l'église orthodoxe. Corps et biens, tous les biens d'église ont été confisqués et remis à l'église orthodoxe. Les prêtres, si vous voulez continuer à exercer le ministère, devaient passer à l'église orthodoxe, ce que tous n'ont pas fait, mais un certain nombre. Et lorsque cette église gréco-catholique est ressortie des catacombes, en quelque sorte, en 1990 et depuis, a retrouvé existence légale, mais elle n'a pas pu récupérer plus de 90% de ses biens. Elles sont encore aux mains des orthodoxes qui refusent de les restituer, ou alors avec parcimonie, mais vraiment de manière très symbolique, si j'ose dire, quoi. Et donc ça, c'est une vraie injustice à l'égard de l'église gréco-catholique, qui, même si elle n'a pas retrouvé, malheureusement pour elle, tous les fidèles et tous les prêtres dont elle disposait avant 1948, manquait très 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 largement de moyens pour retrouver sa pleine vitalité qu'elle mérite d'avoir. Ça, c'est le problème historique, mais qui reste très douloureux, vraiment, c'est très sensible. Et l'église orthodoxe vraiment traîne les pieds, quoi, alors que tout le monde lui met la pression à cet égard. L'autre type de difficulté résulte davantage des conditions actuelles de la vie en Roumanie, avec notamment un problème au niveau des foyers mixtes, des couples unissant des orthodoxes d'une part et des catholiques d'autre part, sinon par la volonté de la hiérarchie orthodoxe, en tout cas de par des velléités du clergé à la base. Il est devenu quasiment impossible pour un ou une catholique d'épouser une ou un orthodoxe sans devenir soi-même orthodoxe. Et puis, le plus difficile et le plus insupportable, enfin le plus inacceptable véritablement, c'est que dans des situations de plus en plus fréquentes, on compte environ un tiers des cas de mariage mixte où le prêtre orthodoxe qui célèbre le mariage contraint la partie catholique non seulement à devenir orthodoxe, mais à être rebaptisé, ce qui est un scandale absolu du point de vue du dialogue œcuménique, évidemment, mais c'est une pratique qui se répand de plus en plus sans que la hiérarchie bouge à cet égard, et là, il y a vraiment quelque chose qui doit changer.
Il me semble qu'il y a un autre point aussi qui est douloureux, depuis 2008, avec la décision de l'Église orthodoxe de Roumanie de ne plus prier avec des catholiques. Est-ce que ça, c'est encore le cas?
Oui, tout à fait, malheureusement. Alors bon, là aussi, c'est une situation un peu compliquée. Cela tient à un épisode délicat qui s'est produit à Timișoara en 2008, effectivement, où lors d'une restitution d'église, alors là, pour le coup, un des rares cas où l'évêque, le métropolite Nicolas du Banat, avait restitué une église à l'Église gréco-catholique, lors de la reprise de possession de cette église, le métropolite orthodoxe était présent, et la chose assez extraordinaire, c'est qu'il est allé communier au moment de l'Eucharistie, de réappropriation, en quelque sorte, de cette cathédrale par l'Église gréco-catholique. Et donc, ça fait un scandale, et à partir de ce moment-là, le Saint-Synode de l'Église orthodoxe roumaine a décidé d'interdire à tout prêtre orthodoxe d'apparaître liturgiquement dans un cadre hétérodoxe, donc dans une liturgie catholique ou protestante, et en sens inverse, il n'est plus question du tout pour un prêtre hétérodoxe, prêtre catholique ou pasteur protestant, d'apparaître dans une liturgie orthodoxe. C'est au point où on ne peut plus réciter le Notre Père ensemble. C'est au point où, pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens au mois de janvier, lorsque une célébration se passe dans une église orthodoxe, et bien nous autres hétérodoxes, nous assistons à une liturgie orthodoxe, après quoi on va boire un coup ensemble, si vous voulez, mais il n'y a aucune prière commune véritablement digne de ce nom. C'est quelque chose qui est très douloureux, effectivement.
Est-ce qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent au niveau du dialogue œcuménique?
Mais pas beaucoup, malheureusement. Je suis au regret de devoir le dire et je mettrai en cause, pas trop durement, j'espère, aussi bien l'église orthodoxe que les églises catholiques. Il n'y a de volonté œcuménique réelle ni d'un côté ni de l'autre. L'église orthodoxe est très nettement majoritaire, vous le savez, elle représente quelque chose comme 88% de la population, qui fait considérer que être roumain, c'est être orthodoxe, forcément. Donc si vous n'êtes pas orthodoxe, vous n'êtes pas authentiquement roumain. Et donc l'église orthodoxe se suffit à elle-même pour représenter à elle seule la nation roumaine dans son esprit. À l'autre bout, vous avez les deux églises catholiques qui ensemble ne pèsent pas plus que 6% de la population. Donc ces deux églises-là sont tellement petites que elles ne sont pas ouvertes à l'œcuménisme spontanément parce que elles ont besoin de défendre leur identité. Elles ont peur d'être diluées dans la masse, notamment du fait des mariages mixtes. Et donc il n'y a de véritable volonté œcuménique ni d'un côté ni de l'autre, hélas.
Comment est-ce qu'on peut favoriser une connaissance de l'autre, une compréhension, et puis peut-être plus tard pour s'aimer, quoi?
Il me semble que le cardinal Cor, sans forcément le présenter de cette manière, nous a donné plusieurs pistes, enfin, pour un œcuménisme qui se porte un peu mieux. Par exemple, l'œcuménisme de la vie quotidienne, les réalités vécues, le fait de mieux se connaître entre catholiques et orthodoxes, y compris dans les couples mixtes, mais pas uniquement, en se fréquentant, en se rencontrant, comme nous essayons de le faire, nous, dans notre centre ici, par exemple, en organisant des conférences et des débats ouverts à toutes les confessions et fréquentés de fait par aussi bien des catholiques que des orthodoxes, que des protestants. De même, le cardinal nous a vivement encouragé à l'œcuménisme de la prière, même si ça peut pas être fait de manière formelle dans un cadre liturgique, on peut quand même prier ensemble, entre amis ou dans une famille mixte, là encore, et à beaucoup d'échelles. Nous avons dans notre centre ici un foyer d'étudiants, la moitié d'entre eux sont catholiques, l'autre moitié est orthodoxe, c'était délibéré, évidemment, c'est pour permettre à ces jeunes de se connaître mutuellement mieux, de s'estimer, ils prient ensemble tous les soirs, donc c'est quelque chose qui, j'espère, les marquera, les ouvrira les uns aux autres et les ouvrira ensemble au Seigneur, à l'amour du Seigneur. Donc c'est quelque chose qui est véritablement important. Et puis une dernière piste évoquée entre beaucoup d'autres par le cardinal Cor, ça a été l'œcuménisme des martyrs. Et évidemment, dans un pays comme la Roumanie, c'est quelque chose qui est particulièrement puissant, sachant que la dictature communiste athée a fait des martyrs aussi bien catholiques que orthodoxes que protestants, et que ces prêtres et ces laïcs et ces moines et moniales qui se sont retrouvés dans les geôles communistes souffraient pour le même Christ au nom de la même foi et souffraient ensemble côte à côte et souvent se soutenaient mutuellement. Et donc il faut vraiment qu'aujourd'hui nous retrouvions la ferveur de ces martyrs qui savaient dépasser leurs différences confessionnelles pour témoigner ensemble de leur foi jusqu'à verser leur sang.
C'était le père Michel Kubler, interrogé par Marie Duhamel. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.